Chapitre 2 1 En approchant de Rome, vers laquelle l'aérien filait à une hauteur d'environ 200 mètres, dans la pureté merveilleuse d'une aube de juillet, Percy Franklin avait l'impression d'approcher des portes mêmes du ciel. Car ce qu'il avait laissé derrière lui à Londres, 10 heures auparavant, lui apparaissait comme un bon échantillon de ce que devaient être les cercles supérieurs de l'enfer. C'était un monde d'où Dieu s'était retiré, mais en le laissant dans un état de profonde satisfaction de soi-même, dans un état dépourvu d'espoir comme de crainte, mais admirablement pourvu de toutes les conditions du bien-être. Non pas au reste que ce monde, tel que Percy l'avait quitté, fut absolument tranquille dans sa jouissance de vivre, car jamais l'énorme ville n'avait été plus excitée, d'une nervosité plus fiévreuse. Toutes sortes de rumeurs couraient. Felsenburgh allait revenir, il était de retour, il n'était jamais parti. Il allait être nommé président du conseil, premier ministre, tribun, même roi, sinon empereur d'Occident. Toute la constitution anglaise allait être refaite. Le crime allait être aboli par ce même pouvoir mystérieux qui avait déjà aboli la guerre. Felsenburgh avait découvert un moyen d'assurer librement la nourriture à tous. On avait trouvé le secret de la vie, et les hommes n'allaient plus connaître ni la maladie ni la mort. Voilà ce que l'on se disait dans les rues, dans les voitures publiques, dans les conversations intimes. Les journaux n'étaient remplis que d'affirmations de ce genre. Oui, et à tout cela, il manquait seulement, songeait Percy, ce qui rend une vie digne d'être vécue. À Paris, pendant l'arrêt de l'aérien à la grande station de Montmartre, qui jadis avait été une église du Sacré-Cœur, il avait entendu le bourdonnement de la foule, ivre de vie. La ville entière retentissait de chants joyeux, resplendissait de lumières multicolores, ressemblait à un immense théâtre où se déroulerait une fête fantastique. Puis, lorsque l'aérien s'était remis en marche, Percy avait vu les longues lignes de trains affluant dans la capitale. Pareils à des serpents lumineux, ils amenaient les habitants des provinces au grand congrès national que les législateurs français avaient convoqué pour discuter les termes d'un nouvel appel au bienfaiteur Felsenburgh. Entre Paris et Lyon, ensuite, ça avait été l'horreur des champs abandonnés, des vieilles villes à jamais désertes, dépeuplées à la fois par la concentration dans les grandes cités et par les progrès du malthusianisme. La nuit chaude était d'une clarté exceptionnelle. Et Percy avait longtemps résisté au sommeil pour jouir de la variété et de la beauté du spectacle qui s'offrait à lui. Cependant, il s'était endormi lorsque l'air froid des Alpes avait commencé à entourer sa voiture, et ce n'avait été que par instant qu'il avait entrevu, à ses pieds, les pics solennels baignés de lune, les profondeurs noires des abîmes, le reflet argenté des lacs, l'entassement pittoresque des maisons grises dans les villes et villages de la vallée du Rhône. Une fois, il s'était réveillé pour de bon en voyant passer, dans la nuit, un des grands aériens allemands, tout doré et illuminé, pareil à une falaine géante, avec des antennes de lumière électrique. Et les deux vaisseaux s'étaient salués, à travers une demi-lieue d'air silencieux, avec un cri pathétique, comme celui de deux oiseaux de nuit qui se rencontreraient en plein vol. Turin et Gênes dormaient quand l'aérien les avait traversés. Florence faisait à peine mine de se réveiller. Et maintenant, la campagne glissait rapidement, toute ridée et bosselée, à 200 mètres au-dessous de la voiture. Et Rome allait paraître, d'un moment à l'autre. L'indicateur électrique, placé au-dessus du lit de Percy, ne désignait plus qu'une distance de moins de 100 kilomètres. Le prêtre acheva de se secouer de son sommeil et prit dans son sac son bréviaire. Mais son attention était distraite en prononçant les paroles de l'office. Et quand il eut achevé prime, il referma le livre, se renfonça sous les fourrures et se laissa aller au cours vagabond de sa rêverie. Il avait éprouvé un soulagement singulier lorsque, 3 jours auparavant, une lettre du cardinal protecteur lui avait enjoint de venir à Rome, en ajoutant qu'il aurait sans doute à y faire un assez long séjour. Il revit en pensée les journées précédentes, songeant aux rapports qu'il allait devoir en faire. Depuis sa dernière lettre, 7 apostasies notables s'étaient produites dans le seul diocèse de Westminster. 2 prêtres et 5 laïcs très connus. De tous côtés, on parlait vaguement de révolte. Percy avait vu un document menaçant qui, sous le nom de pétition, demandait à l'archevêque le droit de renoncer au costume ecclésiastique et qui portait la signature de 120 prêtres anglais et gallois. Les signataires de la pétition écrivaient que la persécution était imminente de la part de la foule, que le gouvernement n'était pas sincère dans ses promesses de protection, et que, même chez les plus fidèles des catholiques, la loyauté religieuse était tendue au point de risquer d'éclater. Quant aux commentaires qu'appelait ce fait, Percy était bien résolu à dire, devant les autorités, comme il l'avait écrit 20 fois déjà, que cette perspective de persécution était certainement fondée, mais que son importance n'était rien encore en comparaison du nouveau déchaînement de l'enthousiasme humanitaire. Cet enthousiasme avait infiniment grandi depuis la venue de Felsenburgh et la publication de la paix d'Orient. L'homme, tout à coup, était littéralement devenu amoureux de l'homme. Des quantités de personnes s'étonnaient d'avoir jamais pu croire ou même rêver que c'était un Dieu inconnu qu'il fallait aimer. Et elles se demandaient par quel étrange sortilège elles avaient pu rester aussi longtemps plongées dans cet aveuglement. Le christianisme, le théisme même, était en train de s'effacer du cerveau du monde, comme s'efface un brouillard matinal au lever du soleil. Et, quant à la vie personnelle de Percy, quant aux mesures qu'il pouvait proposer, tout cela était nettement gravé dans son cœur, presque depuis le jour où il était rentré en Angleterre. Ainsi, il mettait en ordre ce qu'il allait avoir à communiquer au cardinal Martin, lorsque tout à coup, relevant la tête, il aperçut un dôme se dresser sur un grand tapis de verdure. Et aussitôt toutes ses réflexions et tous ses raisonnements s'arrêtèrent, et une seule idée, ou pour mieux dire un seul mot, Rome, le remplit tout entier. Il se releva machinalement, sortit de son coupé, et s'avança dans le couloir central jusqu'à la proue du vaisseau. Pendant une minute ou deux, il observa la ferme et imposante figure du pilote, debout à son poste. Cet homme se tenait immobile, les mains sur le volant d'acier qui dirigeait les vastes ailes, les yeux sur l'instrument qui lui révélait, comme le cadran d'une horloge, la force et la direction des poussées du vent. Et, de temps à autre, ses mains faisaient un mouvement léger, auquel répondaient aussitôt les grandes ailes en éventail, tantôt relevant l'aérien, tantôt le faisant descendre. En face de lui, à ses pieds, fixés sur une table circulaire, étaient différents indicateurs électriques, dont Percy ignorait la signification. L'un d'eux semblait une sorte de baromètre, sans doute pour indiquer l'altitude. Un autre était une boussole. Plus loin, au-delà des fenêtres bombées, s'ouvrait le bleu infini du ciel. Et le prêtre songeait combien tout cela était prodigieux, et que ce n'était là, pourtant, que l'un des innombrables aspects de la grande force, contre laquelle, désormais, le surnaturel avait à lutter, dans la faible et crédule intelligence des hommes. Il soupira, se détourna, et revint s'appuyer à la fenêtre de son compartiment. Là, une vision étonnante se découvrit à lui, plus étrange que belle en vérité, et ressemblant plutôt à une vision de rêve qu'à une vue réelle. À droite, c'était la ligne grise de la mer, se soulevant et retombant d'une façon à peine perceptible, aussi doucement que l'aérien lui-même. À gauche, c'était la campagne illimitée, aperçue par instants entre les ailes de la machine, avec çà et là le dos jaune d'un village, aplati jusqu'au point d'être méconnaissable, ou bien l'ovale bleu d'un lac, tout cela se mêlant aux masses grises des collines de l'Ombrie. Et devant lui, apparaissant et disparaissant d'après les mouvements de la voiture, le prêtre apercevait les contours vagues de Rome et les énormes faubourgs neufs, le tout couronné par ce dôme bleu qui grandissait et devenait plus haut de minute en minute. L'unique bruit, et dont Percy avait depuis longtemps cessé d'avoir directement conscience, était celui du flot continu de l'air, et ce bruit diminuait à mesure que la vitesse de la marche décroissait, tombant à une moyenne de 50 kilomètres par heure. Soudain, il y eut un tintement de cloche, et Percy, tout de suite après, éprouva une étrange sensation de malaise, pendant que la voiture descendait presque en ligne droite. Il chancela, étreignit convulsivement le rebord de la fenêtre. Quand il releva les yeux, tout mouvement semblait avoir cessé. Il pouvait voir des tours devant lui, une rangée de toits de maisons, et plus bas la ligne tournante d'une route, semée de petites taches de verdure. De nouveau, un son de cloche, que suivit cette fois un cri long et doux. De toutes parts, dans les coupés voisins, Percy entendait des mouvements de pieds. Un garde en uniforme passa rapidement le long du corridor vitré, et puis, après encore un léger rappel du malaise de tout à l'heure, le prêtre découvrit, tout à fait, au niveau de ses yeux, le grand dôme, devenu gris sous le bleu du ciel. Un dernier coup de cloche, une faible vibration pendant que l'aérien descendait dans le dock au plancher formé d'un réseau d'acier. Des visages se montrant aux fenêtres découpées, et Percy se dirigea vers la porte de sortie, sa valise en main. 2. Une demi-heure plus tard, assis devant un bol de café, dans une petite chambre du Vatican, le jeune prêtre anglais éprouvait encore une vague sensation de fatigue, suite inévitable du voyage trop rapide. Mais à cette sensation s'en mêlait une autre, toute de soulagement et de plaisir, à mesure qu'il se rendait mieux compte du fait de son arrivée à Rome. Combien il avait trouvé étrange, tout à l'heure, de rouler sur des pavés inégaux, dans un petit fiacre d'osier, absolument comme il avait fait 20 ans auparavant, en venant à Rome pour la première fois. Tandis que le monde entier, alentour, s'était transformé, Rome était restée immobile. Ayant d'autres affaires pour l'occuper que les améliorations matérielles, maintenant surtout que tout le poids spirituel du globe ne reposait que sur ses épaules. Tout, dans cette ville vénérable, non seulement avait conservé son caractère d'autrefois, mais semblait même avoir encore reculé dans le temps, pour se rapprocher des conditions matérielles de la vie au siècle passé. Aussitôt que Rome, en 1972, avait obtenu son indépendance, toutes les améliorations qui avaient introduites le gouvernement italien avaient commencé à être abandonnées. Les tramways avaient cessé de courir dans les rues, les aériens avaient reçu défense d'entrer dans la ville, les bâtiments nouveaux avaient été ou bien démolis ou bien affectés à l'usage de l'Église. Ainsi le Quirinal servait désormais de demeure au pape rouge. Les anciennes ambassades étaient des séminaires, et le Vatican lui-même, à l'exception de l'étage du haut, avait été accommodé de façon à loger les membres du Sacré Collège. C'était, au dire des archéologues, une ville extraordinaire, l'unique exemple survivant des temps anciens. Là seulement, on pouvait voir les incommodités de jadis, les horreurs du manque d'hygiène, l'incarnation d'un monde perdu dans le rêve. Et l'antique pompe de l'Église, elle aussi, revivait. Les cardinaux, une fois de plus, traversaient la ville dans les carrosses dorées. Le pape chevauchait sur sa mule blanche. Le Saint-Sacrement, quand on le portait par les rues étroites et malodorantes, était accompagné du tintement des cloches et de la lumière des lanternes. Cette rétrogression monstrueuse servait encore de prétexte, tous les jours, pour de violentes dénonciations de la barbarie chrétienne. Mais déjà le monde s'y était habitué et n'y pensait plus que comme une preuve de l'hostilité irréconciliable de la superstition contre le progrès. Et cependant, Percy, en revoyant tout à l'heure, durant son trajet de la Porte du Peuple au Vatican, les vieux costumes des paysans, les charrettes de vin, bleues, blanches et rouges, les rebords des trottoirs semés de trognons de choux, les linges mouillés pendus à des cordes d'une maison à l'autre, et les mules et les chevaux, avaient trouvé à tout cela quelque chose de réconfortant, sans pouvoir s'expliquer cette impression. Tout lui avait en quelque façon rappelé que l'homme était un être humain et non pas divin, comme le proclamait le reste du monde. Humain et par conséquent porté à l'insouciance, désireux de maintenir son individualité. Humain et par conséquent occupé d'autres intérêts encore que de ceux de la vitesse, de la propreté et de l'exactitude. La chambre où était assis maintenant le prêtre anglais, auprès de la fenêtre ombragée par des stores, car le soleil commençait à chauffer, le ramenait également à plus d'un siècle et demi en arrière. Elle était traversée dans tout son long par une ample table d'acajou, autour de laquelle étaient disposés de hauts fauteuils de bois. Le sol était recouvert de briques rouges, avec de minuscules morceaux de natte pour mettre sous les pieds. Les murs blancs, peints en des trempes, n'étaient ornés que de trois vieux tableaux et un grand crucifix, flanqué de chandeliers, se dressait sur un petit autel à côté de la porte. C'était là tout le mobilier, à l'exception d'un bureau entre les fenêtres, sur lequel était posée une machine à écrire. Et la vue de cette machine ne fut pas sans gêner le prêtre, dans l'impression d'ensemble que lui offrait son milieu nouveau. Déjà le poids qu'il portait sur son cœur lui était allégé, et il s'étonnait de la rapidité avec laquelle s'était produit ce grand changement. La vie ici semblait infiniment plus simple. L'existence du monde intérieur était, infiniment plus que nulle autre part, considérée comme réelle et prise au sérieux. L'ombre même de Dieu à Rome apparaissait plus visible. L'esprit ici ne trouvait plus d'impossibilité à se représenter positivement que les saints veillaient et intercédaient, que Marie siégeait sur son trône, et que le disque blanc sur l'autel était la personne même de Jésus-Christ. Percy n'était pas encore entièrement pacifié, mais déjà il se sentait plus à l'aise, moins désespérément anxieux, plus pareil à un enfant, plus prêt à se reposer volontiers sur l'autorité qui prétendait à régner sur lui, sans explication. 12 heures auparavant, il était encore à Londres, dans le tourbillon de la vie moderne. Et voici que désormais, ce tourbillon avait disparu, pour le laisser dans un monde tout imprégné de calme et de recueillement. Il y eut un bruit de pas au dehors, la porte s'ouvrit, et le cardinal protecteur entra. Un an seulement s'était passé depuis que Percy l'avait vu, et cependant, c'est à peine si au premier abord, il le reconnut. C'était un très vieil homme qu'il voyait à présent devant lui, faible, courbé, le visage couvert de rides, la tête couronnée de cheveux d'un blanc de lait, sous la petite calotte écarlate. Il portait sa robe noire de bénédictin, avec une simple croix abbatiale sur la poitrine. Il marchait lentement, d'un pas incertain, s'appuyant sur une lourde canne. Le seul signe de vigueur chez lui était l'éclat singulier de la ligne étroite de ses yeux, transparaissant sous les paupières tombantes. Il tendit sa main en souriant, et Percy s'agenouilla pour baiser l'anneau d'améthyste. « Soyez le bienvenu à Rome, mon enfant, » dit le vieillard avec une vivacité de voix inattendue. « On m'a dit, il y a une demi-heure que vous étiez ici, mais j'ai pensé qu'il fallait vous laisser d'abord prendre votre café. » Percy murmura un remerciement. « Mais maintenant il faut que nous causions un peu, » reprit le cardinal en l'invitant à s'asseoir. le Saint-Père désire vous voir à 11 heures. » Percy fit un mouvement de surprise. « Ah, mon enfant, c'est que nous sommes forcés d'aller très vite par le temps qui court. Pas une minute à perdre. Vous avez bien compris que nous allons vous garder à Rome. » « J'ai pris toutes mes mesures pour cela, votre éminence. »« Parfait. Nous sommes très contents de vous ici, père Franklin. Le Saint-Père a été plusieurs fois vivement frappé de vos commentaires. Vous avez prévu les choses d'une façon remarquable. » Percy rougit de plaisir. C'était presque la première fois qu'il recevait une parole d'encouragement. Le cardinal Martin poursuivit. « Je puis bien vous dire que nous vous considérons comme le plus précieux de nos informateurs anglais. Et c'est précisément pourquoi nous vous avons fait venir. Il faudra désormais que vous nous aidiez ici comme une sorte de consulteur. Rapportez les faits, c'est ce que chacun peut faire, mais chacun n'est pas en état de les bien comprendre. Vous paraissez très jeune, mon père, quel âge avez-vous ?
J'ai 33 ans, votre éminence.
Et ces cheveux blancs vous donnent avec cela un air si sérieux. Eh bien, mon père, voulez-vous venir avec moi dans ma chambre ? Il est 8 heures, je vous garderai jusqu'à 9, puis vous vous reposerez un peu, et à 11 heures, je vous conduis vers sa sainteté. » Percy se releva avec un étrange sentiment d'exaltation intérieure et courut ouvrir la porte devant le cardinal. 3. Quelques minutes avant 11 heures, Percy sortit de sa chambre et vint frapper à la porte de la chambre du cardinal. Il avait revêtu sa nouvelle ferragiuola et portait aux pieds des souliers à boucles. Il se sentait désormais beaucoup plus maître de soi. Dans son entretien avec le cardinal, il s'était exprimé très librement, décrivant au vieillard l'effet que Felsenburgh avait produit sur Londres, et lui faisant l'aveu de l'espèce de paralysie morale dont il avait été lui-même envahi. Il avait affirmé sa croyance que le monde était au début d'un mouvement sans équivalent dans l'histoire. Il avait raconté de petites scènes dont il avait été témoin, un groupe agenouillé devant un portrait de Felsenburgh, un mourant l'invoquant par son nom dans son agonie. Il avait retracé l'aspect de la foule qui, à Westminster, s'était réunie pour connaître le résultat de l'offre faite à cet étranger. Il avait montré au cardinal une demi-douzaine d'articles de journaux tout enflammés d'un enthousiasme hystérique. Et se risquant à prophétiser, il avait ajouté que, suivant lui, l'heure de la persécution était à présent toute proche. « Le monde semble posséder d'une vitalité maladive, » avait-il dit, « comme d'une fièvre nerveuse qui n'est point près de se calmer. » Le cardinal avait approuvé d'un signe de tête. « Nous aussi, » avait-il répondu, « nous sentons un peu de cela. » Le reste du temps, le vieillard était demeuré immobile, épiant Percy de ses petits yeux et paraissant écouter avec une attention infinie. « Quant à vos propositions, mon père, » avait-il commencé ensuite. Mais il s'était interrompu. « Au fait, c'est le Saint-Père qui doit d'abord vous demander cela. » Puis il l'avait complimenté de son latin, et Percy lui avait expliqué combien l'Angleterre catholique avait loyalement obéi au bref par lequel le pape, 10 ans auparavant, avait décrété que le latin eût à redevenir pour l'Église ce que l'espéranto était en train de devenir pour le monde. « Voilà qui est fort bien, » avait dit le vieillard, « et qui fera grand plaisir à sa sainteté. » Au coup frappé sur sa porte, le cardinal sortit de sa chambre, prit le prêtre par le bras sans lui dire un mot, et tous deux se dirigèrent vers l'entrée de l'ascenseur. Percy ne put se retenir de hasarder une observation. « Je suis étonné de cet ascenseur, votre éminence, comme aussi de la machine à écrire dans la salle d'attente.
Et pourquoi donc, mon père ?
Et maintenant que tout le reste de Rome est revenu aux temps anciens. » Mais le cardinal le regarda étonné. Ma foi, dit-il, c'est vrai. À vivre toujours ici, je n'y pensais plus. Un garde leur ouvrit solennellement la porte de l'ascenseur, salua, et les ayant accompagnés au premier étage, les précéda encore dans un long couloir où se tenait l'un de ses collègues. Informé par celui-ci, un chambellan, somptueusement vêtu de noir et de pourpre, vint au-devant des visiteurs.
« Votre éminence voudrait-elle attendre ici une minute ? » demanda-t-il en latin.
Percy et le vieillard se trouvaient assis dans une petite pièce carrée, meublée aussi simplement que la salle d'audience du cardinal, et donnant l'impression d'un curieux mélange de pauvreté ascétique et de dignité, avec son pavé de briques, ses murs blanchis à la détrempe, son autel, et les deux énormes flambeaux de bronze, d'une valeur incalculable, qui se dressaient aux côtés du crucifix. Mais Percy n'avait guère le loisir de regarder autour de lui. Tout son cerveau et tout son cœur étaient absorbés dans l'attente de l'entrevue qui se préparait. C'était le papa Angelicus que le prêtre allait voir dans un instant. Cet étonnant vieillard qui avait été nommé secrétaire d'État il y avait tout juste un demi-siècle, et qui occupait depuis 9 ans déjà le trône pontifical. C'était lui qui, durant son secrétariat, avait décidément obtenu que la domination temporelle de Rome fût rendue au pape, en échange de toutes les églises de l'Italie cédées au gouvernement italien. Et toujours, depuis lors, il s'était employé à la tâche de faire de Rome une cité de saints. Absolument indifférent à l'opinion du monde, toute sa politique avait consisté en une chose très simple. Toujours, invariablement, dans une innombrable série d'encycliques, il avait déclaré que l'objet de l'Église était de glorifier Dieu en produisant dans l'homme des vertus surnaturelles, et que toutes les actions du monde n'avaient de signification ni d'importance que dans la mesure où elles tendaient à ce seul objet. Il avait déclaré en outre que, puisque Pierre était la grande roche, la cité de Pierre était la capitale du monde et devait offrir un exemple à toutes les autres villes, ce qui ne pourrait avoir lieu que si Pierre régnait sur sa cité. Et puis, étant devenu maître de celle-ci, il s'était mis vraiment à régner sur elle. Il avait dit que dans l'ensemble, les récentes découvertes de l'homme tendaient à distraire les âmes immortelles de la contemplation des vérités éternelles. Non que ces découvertes pussent être, le moins du monde, mauvaises en soi, puisqu'elles permettaient de pénétrer dans les lois merveilleuses de Dieu. Mais pour le moment présent, elles n'en étaient pas moins trop excitantes et trop exposées à égarer l'imagination. Et ainsi il avait supprimé de Rome les tramways, les vaisseaux aériens, les laboratoires, les manufactures, en déclarant qu'il y avait assez de place pour tout cela hors de Rome. Et pendant que toutes ces choses étaient transportées dans les faubourgs, il leur avait substitué, en ville, des chapelles, des maisons religieuses et des calvaires. Après quoi, il avait continué à élever vers Dieu les âmes de ses sujets. Puisque Rome, avec ses remparts, occupait un espace limité, et plus encore puisque c'était chose certaine que le monde présent exerçait une action corruptrice, il n'avait permis à aucun étranger de moins de 50 ans de venir vivre à Rome pendant plus d'un mois par an, sauf le cas d'une autorisation expresse très difficile à obtenir. Les étrangers, naturellement, étaient libres de venir demeurer en dehors des remparts, et c'est ce qu'ils faisaient par dizaines de milliers. Mais la ville elle-même n'avait pas le droit de leur donner asile. Et le pape avait divisé Rome en quartiers nationaux, disant que, comme chaque nation avait ses vertus propres, chacune devait laisser briller sa lumière le plus pleinement possible. Les loyers ayant aussitôt monté, il avait légiféré contre cela en réservant dans chaque quartier un certain nombre de rues où les loyers devaient rester à des prix fixes et en prononçant l'excommunication contre ceux qui outrepasseraient sa volonté sous ce rapport. Quant à la cité léonine, il l'avait entièrement gardée à sa propre disposition. Il avait pareillement rétabli la peine de mort avec la même gravité sereine avec laquelle il s'était exposé à la dérision du monde civilisé par ses autres mesures, en disant que, puisque la vie humaine était sacrée, la vertu humaine devait l'être plus encore. Et il avait même ajouté aux crimes du meurtre les crimes de l'adultère et de l'apostasie, comme étant également passibles en droit de la peine capitale. Au reste, il n'y avait pas eu plus de 2 exécutions depuis les 9 ans de règne. Les criminels ayant naturellement la ressource, à l'exception de ceux qui étaient des croyants véritables, de s'enfuir dans les faubourgs où la juridiction pontificale perdait tout son pouvoir. Encore ce pape réformateur ne s'en est-il point tenu là. Une fois de plus, il avait envoyé des ambassadeurs dans tous les pays du monde, en informant les gouvernements de leur arrivée. À cela, aucune attention n'avait été prêtée, sauf pour en rire, mais le pape avait continué tranquillement à affirmer ses droits. De temps à autre, des encycliques apparaissaient dans chaque pays, exposant les exigences pontificales aussi résolument et formellement que si celles-ci eussent été reconnues partout. La franc-maçonnerie, toutes les idées démocratiques, étaient obstinément dénoncées. Les hommes étaient exhortés à se rappeler leur âme immortelle et la majesté de Dieu, comme aussi à réfléchir sur le fait que, dans très peu d'années, tous seraient appelés à rendre leur compte à celui qui était le Créateur et le Souverain du monde, et dont le vicaire ici-bas était Jean 24, P.P., dont suivait la signature et le sceau. Une telle ligne de conduite avait profondément étonné le monde. On s'était attendu à des cris d'indignation ou à des discussions, à l'envoi d'émissaires secrets, à des complots, à mille formes actives de protestation. Mais rien de tout cela n'était venu. C'était comme si le progrès n'avait pas encore commencé, comme si l'univers entier n'en était pas arrivé à perdre son ancienne croyance en Dieu, et à découvrir que c'était lui-même qui était Dieu. L'étrange vieil homme s'obstinait à parler dans son rêve, à divaguer au sujet de la croix et de la vie intérieure, et du pardon des péchés, exactement de la même manière que ses prédécesseurs l'avaient fait, 2000 ans auparavant. Et le monde y voyait un signe de plus, pour prouver que Rome n'avait pas perdu seulement son pouvoir, mais encore tout sens commun. Et tandis que les uns se contentaient de rire, d'autres, de plus en plus nombreux, estimaient qu'il était urgent d'aviser à faire cesser une telle folie. Percy revoyait tout cela, assis sur sa chaise de paille, lorsque tout à coup une porte s'ouvrit. Un prélat vêtu de pourpre apparut et s'inclina. Le cardinal posa vivement une main sur le genou du prêtre. « Une seule recommandation, lui dit-il, soyez absolument sincère et ne cachez rien. » Percy se leva tout tremblant et il suivit son maître vers la porte entr'ouverte. 4. Dans le demi-jour, une figure blanche était assise auprès d'un grand bureau, le visage tourné du côté de la porte. C'est là tout ce que vit Percy pendant qu'il faisait sa première génuflexion. Puis il baissa les yeux, s'avança, s'agenouilla de nouveau, s'avança encore et s'agenouilla pour la troisième fois, en soulevant à ses lèvres la frêle main blanche tendue vers lui. Il entendit la porte se refermer au moment où il se relevait. « C'est le père Franklin, votre sainteté, » dit le cardinal Martin, se penchant à l'oreille du vieillard. Un bras vêtu de blanc fit signe pour indiquer deux chaises toutes proches, et les visiteurs s'assirent. Pendant que le cardinal, lentement, en quelques phrases latines, rappelait au pape que le jeune prêtre était cet Anglais dont la correspondance avait été souvent trouvée intéressante, Percy, remis de son premier saisissement, s'était mis à observer de tous ses yeux. Il connaissait bien le visage du pape, autant pour l'avoir vu lui-même à distance plusieurs fois, que pour en avoir vu des centaines de photographies et cinématogrammes. Il n'y avait pas jusqu'à ses gestes qui ne lui fussent familiers. Le léger penchement de la tête en marque d'approbation, l'éloquent petit mouvement des mains, mais Percy n'en avait pas moins l'impression que c'était la première fois qu'il avait devant soi la personne vivante du chef de l'Église. L'homme qu'il voyait était un vieillard très droit, de taille moyenne et avec, dans toute sa personne, une apparence de grande dignité, reflété même dans la façon dont ses mains étreignaient les bras de son fauteuil. Mais surtout, le visage était remarquable.
tel que Percy put l'étudier à 3 ou 4 reprises pendant que les yeux bleus du pape se tournaient vers lui. Ses yeux, d'une limpidité et d'une profondeur extraordinaires, rappelaient un peu ce que les historiens disaient de ceux du pape Pie X. Les paupières dessinaient des lignes très nettes, donnant au regard une expression un peu dure, mais que contredisait aussitôt le reste du visage. Celui-ci n'était ni gras ni maigre, mais admirablement découpé, dans son ovale régulier. Les lèvres étaient droites et fines, avec une ombre de passion dans leurs mouvements. Le nez descendait brusquement en bec d'aigle, aboutissant à des narines finement ciselées. Le menton était ferme, fendu d'une fossette au milieu, et tout le port de la tête avait quelque chose d'étrangement juvénile. C'était un visage exprimant la générosité et la douceur, mais avec cela, ecclésiastique au dernier degré. Le front était légèrement comprimé aux tempes, et d'épais cheveux blancs se montraient sous la calotte blanche. Percy se rappela comment, autrefois, on avait remarqué que ce visage ressemblait, et de la façon la plus frappante, à un visage composite, fait avec les photographies des prêtres les plus connus. Prêtre, c'était le seul mot qui, à l'esprit du visiteur, résuma toute l'impression éprouvée. Ecce sacerdos magnus. Cependant, le jeune Anglais était surpris aussi de la juvénilité de toute la figure du pape, qui, à plus de 88 ans, se tenait droit comme un homme de 50, les épaules levées, la tête reposant sur elle comme celle d'un lutteur, et à peine quelques rides sous les tempes et autour du nez. Papa Angelicus, se répétait Percy. Le cardinal, ayant achevé ses explications, fit un petit geste, et Percy recueillit toutes ses facultés pour se tenir prêt à répondre aux questions qui allaient venir. « Soyez le bienvenu, mon fils, » dit une voix très douce et sonore. Puis le pape baissa les yeux de nouveau, prit un presse-papier dans sa main gauche, et se mit à jouer avec lui, tout en parlant. « Maintenant, mon fils, » reprit-il, « je désire que vous me fassiez un discours sur les 3 points que voici, ce qui s'est produit, ce qui est en train de se produire et ce qui se produira, en y joignant une péroraison, si vous voulez bien, sur les mesures qui, à votre avis, auraient chance d'apporter des modifications opportunes sur ce dernier point. » Percy respira fortement, s'adossa, serra les doigts d'une de ses mains dans l'autre main, fixa fermement ses yeux sur le soulier rouge, brodé d'une croix, en face de lui, et commença le discours que, 100 fois au moins, il s'était répété les jours précédents. Il établit d'abord ce thème, que toutes les forces de l'univers civilisé se concentraient désormais en 2 camps, le monde et Dieu. Jusqu'alors, ces forces avaient été incohérentes et spasmodiques, éclatant de manières diverses. Les révolutions, les guerres, avaient été comme des mouvements de foule sans règle ni direction, indisciplinés. Et pour répondre à cet état de choses, l'Église, elle aussi, avait agi au moyen de sa catholicité, opposant des francs-tireurs à d'autres francs-tireurs, répondant à des attaques désordonnées par autant de répliques appropriées. Mais depuis les 100 dernières années, on pouvait nettement apercevoir que les méthodes du conflit étaient en train de changer. L'Europe, en tout cas, s'était décidément fatiguée des luttes intestines. L'alliance du capital et du travail illustrait ce changement dans la sphère économique. Le partage pacifique du continent africain par les diverses nations européennes l'illustrait dans la sphère politique. Et c'était encore ce changement qu'illustrait dans la sphère spirituelle le développement de la religion humanitaire. Contre cette centralisation des forces du monde, l'Église, de son côté, avait tâché à se concentrer plus étroitement. Grâce à la sagesse de ses pontifes, sous l'inspiration de Dieu Tout-Puissant, les lignes de son action n'avaient point cessé de se resserrer. Percy en donna pour exemple l'abolition de tous les usages locaux, y compris ceux des rites orientaux, longtemps conservés avec un soin jaloux. L'établissement à Rome des cardinaux protecteurs, la tendance croissante des ordres monastiques à se fondre en un seul,
et sous l'autorité d'un seul général suprême, bien que plusieurs de ses ordres eussent tenu à garder leurs noms anciens. Il rappela aussi de récents décrets, fixant définitivement le sens et les limites de la décision de l'infaillibilité pontificale. Il rappela le remaniement du droit canon et l'immense simplification qui s'était faite dans la hiérarchie. Mais, parvenu à ce point, il s'aperçut qu'il courait le risque de rompre le fil de son discours, et il se hâta de revenir à la signification des événements des mois précédents. « Tout ce qui avait eu lieu jusqu'alors, dit-il, ne pouvait manquer d'amener ce qui venait d'avoir lieu, c'est-à-dire la réconciliation du monde entier sur des bases autres que celles de la vérité divine. » L'intention de Dieu et de ses vicaires avait été de réconcilier tous les hommes en Jésus-Christ. Mais la pierre d'angle, une fois de plus, avait été rejetée, et au lieu du chaos que l'on avait prophétisé, voici que se formait une unité sans équivalent dans l'histoire. Chose d'autant plus dangereuse qu'elle contenait plus d'éléments incontestablement bons. Ainsi la guerre, suivant toute apparence, était désormais éteinte. Et ce n'était point le christianisme qui l'avait éteinte. Les hommes avaient compris que l'union valait mieux que la discorde, et c'est en dehors de l'Église qu'ils l'avaient compris. En fait, les vertus naturelles s'étaient soudainement épanouies, tandis que les vertus surnaturelles avaient été méprisées. La philanthropie avait pris la place de la charité, le contentement, celle de l'espérance, et la science s'était substituée à la foi. « Oui, mon fils, dit la douce voix, pleine d'affection, et quoi encore ?»« Quoi encore ? Reprit Percy. Eh bien, des mouvements tels que celui-là ne pouvaient manquer de produire des hommes. Et l'homme de ce mouvement nouveau avait été Felsenburgh. Il avait accompli une œuvre qui, de la part d'un homme, semblait miraculeuse. Il avait mis fin à l'éternelle division entre l'Orient et l'Occident par la seule force de sa personnalité. Il avait prévalu sur les haines internationales et les luttes des partis. L'enthousiasme qu'il avait allumé dans les cœurs anglais, toujours peu enclins à s'exalter, était bien, lui aussi, une sorte de miracle. Et de même, il avait enflammé la France, l'Espagne, l'Allemagne. Percy décrivit une fois de plus les scènes singulières dont il avait été témoin et cita quelques-unes des épithètes attribuées à Felsenburgh, même dans les journaux les plus pondérés. Ces journaux l'appelaient le fils de l'homme à cause de son cosmopolitisme, le sauveur du monde parce qu'il avait tué la guerre. D'autres allaient même, ici la voix du prêtre trembla, allaient même jusqu'à l'appeler Dieu incarné, parce qu'il était le plus parfait représentant de l'élément divin qui réside dans l'homme. Le tranquille et beau visage de prêtre, qui observait Percy, ne faisait toujours aucun mouvement, et Percy continua. « La persécution, dit-il, était certainement en train d'approcher. Il y avait eu déjà un ou deux coups de force populaires, mais la persécution n'était pas à craindre. Sans doute, elle causerait des apostasies, comme elle l'avait toujours fait, mais d'autre part, elle donnerait plus de foi aux fidèles et purgerait l'Église de ceux dont la foi n'était que de surface. Jadis, dans les premiers temps du christianisme, l'attaque de Satan s'était produite sur le corps avec des fouets et du feu et des bêtes féroces. Au XVIe siècle, elle s'était produite sur l'intelligence. Au XXe siècle, elle avait eu pour objet les ressorts les plus intimes de la vie morale et spirituelle. Maintenant, il semblait que l'assaut allait être dirigé des trois côtés à la fois. Cependant, ce qui méritait surtout d'être craint, c'était l'influence positive de l'humanitarisme. Celui-ci arrivait entouré de puissance. Il saisissait vivement l'imagination. Affirmant sa vérité, au lieu de chercher à la prouver, il pénétrait dans les âmes bien plus profondément qu'au moyen de discussions et de controverses. Il semblait se frayer un chemin presque directement et sans résistance, jusqu'au plus secret des replis du cœur. Des personnes qui avaient à peine entendu son nom se déclaraient prêtes à y adhérer. des prêtres avaient la sensation de l'absorber, comme naguère ils absorbaient Dieu dans la communion. Des enfants s'en abreuvaient, comme autrefois les petits martyrs s'étaient enivrés de christianisme. L'âme naturellement chrétienne paraissait en train de devenir l'âme naturellement infidèle. La persécution, s'écriait Percy, devait être accueillie comme le salut et demandée à force de prières, mais il craignait que les autorités, dans leur ruse diabolique, ne connussent trop la manière de distribuer l'antidote avec le poison. Sans doute, il y aurait des martyrs individuels, et en très grand nombre, mais cela aurait lieu malgré les gouvernements, et non pas à cause d'eux. Enfin, Percy s'attendait à voir d'un jour à l'autre l'humanitarisme revêtir le déguisement de la liturgie et du saint sacrifice. Quand il aurait réussi à obtenir l'adhésion des peuples pour ce déguisement sacrilège, s'en serait fait de la cause de l'Église, si Dieu ne consentait pas à intervenir. Percy, tout frémissant, s'arrêta. « Oui, mon fils, et qu'est-ce que vous pensez qu'il y aurait à faire ?» Percy se tordit les mains. « Saint-Père, répondit-il, la messe, la prière, le rosaire, cela d'abord et par-dessus tout. Le monde nie le pouvoir de tout cela, mais c'est sur ce pouvoir que les chrétiens doivent s'appuyer plus que jamais. Toute chose en Jésus-Christ. Rien d'autre ne saurait servir. C'est lui qui doit faire tout, car nous, désormais, nous ne pouvons plus rien. » La tête blanche se pencha en signe d'approbation. Et puis, elle se releva. « Oui, mon fils, mais, aussi longtemps que Jésus-Christ daignera nous employer, il faut pourtant que nous servions sa cause. De quelle manière pensez-vous que nous puissions la servir ?»« Je pense, répondit Percy, qu'un nouvel ordre, votre sainteté, la main blanche laissa retomber le presse-papier, et le pape se pencha en avant, les yeux attentivement fixés sur le prêtre. « Que dites-vous, mon fils ?» Percy se jeta à genoux devant le vieillard. « Un nouvel ordre, votre sainteté. Pas d'habit ni de signe distinctif, ne dépendant que de votre sainteté. Plus libre encore que les jésuites, plus pauvre que les franciscains, plus mortifié que les chartreux, comprenant des hommes et des femmes, les trois vœux et en plus l'intention expresse du martyr. Chaque évêque chargé du soutien des membres de l'ordre dans son diocèse, un lieutenant dans chaque pays, votre sainteté, qu'allez-vous penser de mon audace? Le Panthéon ici comme l'église de l'ordre, et le Christ crucifié comme son patron. » Le pape se releva brusquement, si brusquement que le cardinal Martin se mit debout lui aussi par un mouvement machinal. C'était en vérité comme si ce jeune prêtre, dans son zèle, fut allé trop loin. Il y eut un assez long silence, pendant lequel le vieillard blanc se rassit, puis, étendant sa main, « Que Dieu vous bénisse, mon enfant. Vous pouvez vous retirer. Le cardinal Martin vous rejoindra tout à l'heure. »